Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Voguer vers des terres peu et mal connues, découvrir des hommes, des pratiques ignorées, des plantes, voilà ce qu'ont fait très tôt les hommes dont les récits émaillent notre culture et notre imaginaire. Voici l'histoire d'un jeune médecin français du XVIIe siècle parti à bord d'un galion espagnol à la recherche non pas du Graal, mais de quoi atténuer les souffrances de ceux que l'on opérait alors sans autre aide qu'un alcool fort. C'est un récit que l'on lit avec un très grand intérêt, tant il est riche en événements et en rencontres, tant il rapporte aussi quantité d'observations, d'explications géographiques, historiques et bien sûr médicales. Il s'agit d'un roman intitulé « Voyage au bout de la mer Océane » édité chez L'Harmattan dans la collection « Romans historiques, série 17e siècle » et je suis heureuse d'accueillir son auteur Henri Reiche. Henri Reiche, bonjour.
Bonjour, madame Fauché.
Alors, je vais quand même déjà vous parler d'un peu de vous. Je vais vous faire parler parce que, évidemment, c'est un jeune médecin qui s'en va à l'aventure. Un de ces hommes courageux, moi, quand j'ai lu votre récit, je me suis mis quel cran ils avaient. Mais maintenant, nous avons des gens dans l'atmosphère en ce moment et ils ont également...
Beaucoup.
Et il y en a toujours, donc. Mais quel courage. Et c'est un jeune médecin et ce n'est pas fortuit parce que vous-même, vous êtes médecin. Alors, bon, j'ai sous les yeux... une partie de vos activités qui sont nombreuses. Alors, vous avez été en dernier ressort directeur adjoint de l'établissement de transfusion sanguine Pyrénées-Méditerranée. Vous avez dirigé dans l'Aveyron un même centre de transfusion dans le Quercy-Rouergue également. Bon, et puis vous avez fait la médecine évidemment réanimation. Et puis après, vous êtes spécialisé donc en hématologie. En fait, là où mon regard s'accroche aussi, c'est que vous avez effectué beaucoup de missions à l'étranger. Donc vous n'êtes pas un sédentaire tout à fait.
Non,
pas vraiment.
Non, pas vraiment. J'adore les voyages et j'aime aussi me rendre utile au cours de ces voyages pour des missions à l'étranger. Et c'est probablement les voyages les plus intéressants que j'ai fait dans ma vie.
Voilà, et oui. Alors quand vous parlez de voyages, effectivement, ce sont des voyages utilitaires, je dirais, utiles. En 97, vous étiez en Irak dans le cadre d'une résolution des Nations Unies du pétrole contre la nourriture et des médicaments. Trois missions en Syrie dans le cadre d'une convention de coopération qui avait été signée avec l'université de Damas. Et tout ça, c'était à une époque, finalement, qui était calme.
Tout à fait. Oui.
Ouais. Et maintenant, j'imagine votre peine de voir ces pays affluents.
Oui, on a continué à avoir quelques relations épisodiques par médias interposés avec les acteurs que nous avions rencontrés à l'époque. Et nous sommes catastrophés de voir dans quelle situation ils sont actuellement, bien en Syrie, à Mossoul, où mon ami...
Antenne, voilà, vous nous parliez d'un de vos amis qui est à Mossoul, alors ?
Oui, Faïz Al-Kazaz, qui est directeur du centre de transfusion de Mossoul, ou qui travaille, m'a envoyé un message l'autre jour en me disant que sa maison et sa voiture avaient été écrasées par les bombes. Mmh. Il avait envoyé sa famille en Turquie, mais...
Oui, lui reste sur place.
Et lui reste sur place pour se rendre utile. Mais...
Oui. Donc, ayant une pensée, qu'est-ce qu'on peut faire?
Je lui ai demandé ce que je pouvais faire pour lui. Il m'a dit nothing.
Ouais,
pour le moment.
Oui.
Pour le moment.
Oui, on assiste vraiment à une catastrophe humanitaire, hein, vraiment.
Oui. Alors on espère que les choses s'arrangent. Il donne l'impression d'accueillir favorablement la reconquête de Mossoul par l'armée irakienne, mais ça va être difficile.
C'est l'éternel problème, discuter en France, qu'est-ce qu'il faut prôner. Alors on ne va pas faire de la politique trop facilement, on ne va pas se lancer là-dedans, mais c'est vrai qu'on se dit, finalement, avant, bon, il y avait certainement des exactions, mais c'est quand même, les gens ne cherchaient pas à fuir sous les bombes, et les maisons écrasées, tellement de gens tués aussi, voilà.
Et les séjours que j'ai faits en Irak et en Syrie montraient des gens les gens que je rencontrais étaient paisibles, faisaient leurs affaires, vivaient apparemment heureux. Bon, il devait y en avoir en prison, certainement.
Certainement,
des opposants. Oui. Mais personne n'avait envie de quitter ce pays, ces pays.
Oui. Alors que maintenant, c'est un pays en ruine. Ce sont des pays en ruine. Oui. On parlera à la fin de l'émission d'une association que vous avez créée. Et on en parlera, on trouvera un petit temps pour en parler. Et nous allons revenir à votre livre. Alors, Voyage au bout de la mer Océane. Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi la mer Océane? La mer Océane, c'est le grand large.
Alors, la mer Océane, c'est le nom qu'on donnait à l'océan Atlantique à cette époque-là. Et de l'autre côté de l'isthme de Panama, il y avait une autre mer qu'on appelait la mer du Sud, parce que elle était au sud de l'isthme de Panama. Et bon, c'est l'océan Pacifique actuellement. Oui. Les mers avaient les territoires avaient d'autres dénominations. Oui, on appelait la Nouvelle Grenade, l'Amérique, l'Amérique du Sud, la Nouvelle Espagne, le Mexique. Donc les noms ont changé.
Les noms ont changé. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, Henri Reche, de prendre la plume?
Alors depuis très longtemps, j'aime écrire. J'aimais écrire dans mon travail. J'ai toujours eu l'ambition de faire un roman. J'ai commencé à écrire un roman avant de prendre ma retraite. C'était c'était relative à une activité que j'avais eue, une mission sur l'identification des patients et des donneurs de sang. Et le thème, c'était l'usurpation d'identité. Voilà. Alors, ce roman a été achevé, mais il avait une forte composante
autobiographique.
Et avant de le publier, j'avais demandé l'avis de mon entourage. Mon épouse était assez favorable, mais mes enfants ne m'ont jamais donné de réponse.
Rien n'est perdu.
Rien n'est perdu. Et voilà. Et donc, lorsque je me suis relancé dans l'aventure d'écriture, j'ai dit qu'il fallait que je m'éloigne le plus possible de l'autobiographie.
Mais alors, on retrouve quand même le goût. Bon, il y a la médecine, évidemment, les voyages, la mer. Vous êtes également attiré par...
Oui, oui. J'ai fait du bateau, du dériveur. J'ai navigué sur des bateaux. Et un moteur au Galapagos, j'ai navigué sur des voiliers récemment en Nouvelle-Calédonie.
Ah oui,
mais jamais comme barreur,
comme skipper.
Comme skipper.
Ouais, d'accord. Alors, j'imagine, en vous lisant, j'imaginais qu'il y avait beaucoup de documentation en amont de cet ouvrage. Alors, est-ce que vous aviez des récits des frères de la côte, par exemple, de Michel Le Basque ou de Jean-François Nau?
Alors, lorsque on se met à écrire, on commence à puiser des informations dans la bibliothèque qu'on a dans notre cerveau, qui est le fruit
de
nos rencontres, de nos lectures, effectivement, de nos voyages. Et c'est vrai que certaines lectures que j'avais pu faire, notamment. L'histoire de la flibuste de Georges Blanc a influencé de manière significative certains passages de mon récit. Et puis à la fin de cette aventure d'écriture, je me suis rendu compte que d'autres lectures avaient pu influencer de manière significative mon inspiration, en particulier le voyage d'un naturaliste au bout du monde de Charles Darwin.
Ah oui.
Ou l'Abyssin. L'Abyssin, c'est un livre que vous connaissez de Jean-Christophe Ruffin qui raconte l'histoire d'un médecin qui part en ambassade d'Alexandrie vers Gondar, la capitale de l'Abyssinie de l'époque, pour soigner le négus. Et il y a une histoire d'amour aussi, ça se passe à la même époque.
Oui, un mélange d'histoire, de romantisme, et de médecine.
Oui, oui, tout à fait. Donc, je pense que, rétrospectivement, je pensais qu'il avait que cette lecture qui m'avait beaucoup plu constituer un élément d'inspiration. Après, j'ai lu beaucoup j'ai débuté ce manuscrit au printemps 2015 un peu par hasard. dans le cadre d'un concours qui avait été proposé par un organisme qui s'appelle Envie d'écrire, et concours qui était destiné à publier les meilleures nouvelles sur le thème du voyage.
D'accord.
À l'époque, je préparais le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et je n'avais pas beaucoup de temps à accorder à l'écriture. Mais par contre, j'étais dans une attitude d'esprit très ouverte au voyage. Mmh. Et donc, j'ai décidé de donner une réponse à cette invitation à écrire sur le thème du voyage. Toutefois, et heureusement peut-être, à la date limite d'envoi du manuscrit, non seulement je n'avais pas terminé, mais j'avais largement dépassé le quota de pages imposé par ce style d'écriture, et j'ai décidé de poursuivre la rédaction.
Voilà le départ. Alors, le personnage central de votre roman est un médecin français, Émeric de Fleury. Alors, que fait-il à bord d'un navire espagnol, et qu'est-ce qui le motive?
Alors, quand j'ai imaginé la trame du roman, d'abord c'était un récit court, hein. Donc je voulais raconter une belle histoire. Mm-hmm. La médecine m'intéresse beaucoup, donc je pensais que le personnage principal pouvait être un médecin. Une histoire d'amour était un ingrédient utile.
Oui. Pour alléger de temps en temps, oui. Hein, peut-être.
Donc il fallait que je trouve aussi une jeune personne vive d'esprit, aimant la découverte. Voilà. Et donc il fallait aussi que je trouve pour ce médecin une forte motivation, parce que c'était à l'époque une aventure, hein, dont tout le monde ne revenait pas.
Déjà traverser l'océan. Hein.
Et donc, on découvrira, le lecteur pourra découvrir.
Ah oui, on ne racontera pas tout.
Mais on pourra découvrir, en effet, quelle est la motivation profonde.
Si, ça, on peut le dire peut-être quand même, hein, parce qu'on racontera certainement pas la fin, mais en fait, il veut soulager, parce qu'on peut évoquer quand même les souffrances pendant les guerres.
Oui, on peut évoquer ça, puis on peut parler de son frère peut-être.
Oui. Oui, oui.
Il avait un frère avec qui il avait des relations de grande complicité, qui avait 2 ans de plus que lui, qui était son aîné, mais son complice. Et ce frère a attrapé une maladie. Et on savait à l'époque quel type de maladie lorsque les symptômes arrivaient. Il avait le tétanos et il en est mort dans des souffrances atroces. Son père, à lui, était aussi médecin. Il n'a pas pu
le soulager.
Ouais. Bon, on le découvre au cours du roman. Voilà. On ne va pas en dire plus.
Oui, non, mais ce qu'on peut dire, c'est vrai qu'il cherche un produit, quelque chose. Et sans doute qu'il a entendu parler quand même d'une plante.
Au cours de ses études, il y avait un pharmacien espagnol, Monardès, si je me souviens bien, qui avait écrit un traité sur les plantes et en particulier sur les plantes trouvées en Amérique du Sud.
Oui, parce que finalement, il nous est arrivé beaucoup de choses de ces pays-là.
Et oui, tout à fait. Parmi les médicaments qu'on a ramené beaucoup de fruits, hein,
vous évoquez énormément de fruits, et je me disais, tiens, mais je pensais pas que tout ça nous venait de là-bas.
Effectivement, il y en a énormément. Et puis, il y a des médicaments dont certains que j'évoque, c'est pas un médicament, c'est un produit qu'on utilise que les anesthésistes utilisent dans les grosses interventions pour améliorer.
Pas en trop grosse quantité.
Si, ils savent ensuite neutraliser, mais pour détendre les muscles dans certaines interventions.
Oui. La quinine aussi, non?
Il y a la quinine, tout à fait. La quinine qui était utilisée jusqu'à relativement récemment comme un médicament contre le paludisme et qui est un extrait de l'écorce de quinquina. Oui. On en parle aussi.
Oui, exactement. Non, mais alors justement, là, vous parlez, et je me suis dit, tiens, ça veut dire qu'au XVIIe siècle, vous parlez également de ces pauvres marins qui, à la fin d'un voyage, voyage était dans un état pitoyable.
Oui.
Et vous parlez justement du manque de vitamines.
Oui.
Et de la...
c'est vrai que dans ces longues expéditions, les marins, les gens qui ont relaté les histoires maritimes ont expliqué que les marins avaient un certain nombre de troubles. Ils perdaient leurs dents, ils avaient une haleine fétide, ils étaient fatigués,
ils ont mouru.
Oui, bien sûr. Les marins, Jacques Cartier avait perdu 25% de ses équipages lorsqu'il s'est rendu en Nouvelle-France. Hein. Et donc... On a su plus tard que c'était lié à un manque de vitamine C, mais à l'époque où se situe le roman, les Anglais avaient compris qu'en donnant du jus de citron ou d'orange, on n'avait pas ces signes. Oui. Donc
déjà au XVIIe siècle.
Oui.
Alors voilà, on est sur un bateau, c'est le Santa Lucia, et il fait partie de la flotte des Indes. Et il y a beaucoup de bateaux de guerre dans cette flotte. Il y a un certain nombre,
Ne
sais pas. Mais c'est vrai qu'ils voyageaient rarement seuls quand même. Hein.
Alors tous les ans, l'Espagne organisait à partir de Séville puis de Cadix une expédition avec un certain nombre de bateaux marchands qui devaient accomplir un certain nombre de formalités auprès de la Casa de Contratación, qui surveillait si les bateaux contenaient ce qu'ils avaient.
Oui.
Et puis il y avait ensuite au retour il y avait une rétribution pour le roi, donc il fallait faire
un inventaire
précis.
Oui.
Donc tous les ans une flotte partait traverser la mer Océane ou l'océan Atlantique. Avec un contingent de bateaux militaires qui permettent de les protéger.
Et vous parlez à un moment donné là plus tard dans le récit des flibustiers des pirates finalement et c'est vrai que on voit même qu'en Méditerranée certains voyageurs se retrouvaient esclaves en Afrique du Nord en particulier.
Oui, oui. Hein. La piraterie était quelque chose de très très développé.
Et en même temps protégé par le roi,
soutenu par les rois.
Oui.
Alors pourquoi, je vais essayer de l'expliquer.
Oui, vous l'expliquez à un moment donné. On en reparlera.
D'accord.
En tout cas, là, donc il y a le commandant qui est un ami, le commandant du bateau qui est un ami, donc de Émeric de Fleury. Mais on sait que ce commandant lui aussi a des attaches dans le pays où ils vont aller. Il y a l'armateur qui se transporte avec sa famille. Et évidemment, il y a la jolie Isabelle et ça, il y a l'épouse Maria Dolores. Et ils vont voir leur fils qui, lui aussi, fait le commerce du bois exotique. On se rend compte que déjà, on a tendance à penser que souvent, il n'y avait pas l'avion et que les bateaux étaient quand même plutôt lents. On a pensé que les gens ne voyageaient pas tant que ça. Et en fait, on se trompe.
Oui, tout à fait.
Finalement, tout à fait. Parce que moi je me dis, il faut être hardi pour aller voir son fils qui vend des bois exotiques avec sa femme et sa fille.
Oui. Bon,
ça se faisait.
Oui, tout à fait.
Oui.
L'Amérique a été colonisée, donc il doit bien y avoir des gens qui y sont restés.
Bon, alors il y a l'aumônier dominicain Padre Sanchez. Alors lui, c'est un personnage qui paraît bienveillant, mais il surveille son monde.
Tout à fait.
Et voilà. Alors lui, il se charge de rappeler à chacun la pratique de la foi catholique. Et on voit l'importance à l'époque, au niveau même de la vie du bateau, de la foi et des rites.
Oui, tout à fait. Ouais. Oui, l'aumônier, c'est un prêtre de l'ordre de Saint-Dominique et qui a une longue expérience de l'évangélisation des peuples d'Amérique. Et c'est vrai que ses offices rythmaient la vie du bateau, avec le matin, la prière du matin, l'après-midi, et puis le dimanche. Alors, Émeric n'est pas toujours très assidu à ses offices
et
la raison pour laquelle le prêtre est un peu rigide à son égard.
Oui, il était possible que ses absences répétées lors de la prière du matin, il était absent d'ailleurs pour de bonnes raisons.
Parfois, certainement. Oui.
Émeric, à un certain à l'égard des pratiques quotidiennes, eh bien il fait ce qu'il peut et il fait ce qu'il veut. Alors vous parlez aussi du rôle de certains prêtres dans la défense des Indiens.
Oui.
Oui, ça aussi c'est très intéressant. Mais,
oui, il y a bon l'histoire de Las Casas qui avait défendu qui lui aussi avait une longue expérience de l'évangélisation des peuples d'Amérique et qui avait défendu à Valladolid devant le légat du pape la nature humaine des peuples d'Amérique. Et donc il y a une discussion à ce sujet au sujet des Africains pour
oui.
Alors, à un moment le
oui, effectivement, parce qu'il y a deux poids, deux mesures. Hein.
Oui.
On comprend, on admet que les Indiens se comportent comme ceci, comme cela, mais les Africains, non, ce ne sont pas des hommes. Voilà. Hein. Mais je lis juste un tout petit extrait. Les rituels des Indiens qui pratiquaient des sacrifices humains et parfois le cannibalisme pour satisfaire leur divinité ont cessé avec l'évangélisation et c'est dû à des missionnaires comme Padre Sanchez. Alors ça, c'est ce que dit... je pense que c'est ce que dit le commandant, non ?
Le commandant,
oui,
oui,
probablement. Bon, mais on sait, et vous en parlez ultérieurement, que tout, on n'a pas eu des comportements toujours admirables,
oui, c'est loin. Dit aussi, c'est dit aussi à plusieurs reprises.
Exactement. Henri Reich, si vous êtes d'accord, nous allons faire une pause musicale et nous reprenons tout de suite après.
Parole d'auteur, Monique Fauché.
Voilà, nous reprenons notre entretien avec Henri Reich, qui a écrit un ouvrage intitulé « Voyage au bout de la mer Océane ». C'est un récit passionnant qui se situe au XVIIe siècle et nous sommes en mer, sur l'océan Atlantique, et nous naviguons vers l'Amérique latine. Alors, oui, vous parliez, juste avant cette pause, vous parliez de discussions sur l'esclavage. Alors, effectivement, il y a une grande discussion qui montre que en 1454, il y en a un qui dit, vous savez, le pape Nicolas V avait autorisé les Portugais à pratiquer l'esclavage chez les Noirs. Et vous savez aussi que ce peuple d'Afrique nous est connu depuis longtemps, que ce n'est pas une découverte récente des chrétiens, dont la bulle papale que j'ai citée dans mon sermon ne s'applique pas aux Noirs. Alors, effectivement, c'est là où on voit les contradictions aussi de l'Église à cette époque-là.
Oui. Oui, hein? tout à fait.
Voilà.
Bon, les papes à l'époque essayaient avaient une attitude plutôt humaine à l'égard des peuples, mais les intérêts des peuples faisaient que les intérêts commerciaux souvent l'emportaient,
le marchand
l'emportait sur
oui.
la,
Oui, oui, bon, et on n'est pas toujours éclairé, effectivement. Oui, parce que là, je vois aussi, à un moment donné, Padre Sanchez, j'ai trop d'estime pour vous, je ne peux vous laisser vous enfermer dans le sophisme, dit le capitaine. Vous savez bien que nous pouvons opposer pour nos frères africains les mêmes arguments que ceux de Las Casas avaient avancés devant le délégué du Saint-Siège à Valladolid. Ces gens sont nos frères et c'est pour ces raisons, des raisons économiques, que nous les maintenons dans l'esclavage. Voilà. Et vous mettez en note. Note, il faudra attendre la Révolution française pour voir un ecclésiastique défendre le sort des Noirs avec l'abbé Grégoire et encore 50 ans pour la condamnation de la traite par le pape Grégoire XVI. Ouais. Et oui, on met du temps hein, à réaliser les choses.
Oui, ça a été une des motivations secondaires du roman d'apporter des informations
ça nous rafraîchit la mémoire ou parfois même ça nous apprend certaines choses. Alors Émeric est-il médecin ou chirurgien?
Oui.
La question.
Donc, à la fin du XVIIe siècle, il y a eu, il y avait plusieurs catégories d'intervenants dans le domaine de la santé, on dirait maintenant de professionnels de santé. Il y avait les médecins, les chirurgiens, les apothicaires, les sages-femmes. Et aussi, il y avait des rebouteux et des charlatans à qui le peuple confiait ses maux et ses maladies. Mais les médecins étaient des lettrés, parfois des ecclésiastiques. Il y en a eu de célèbres et ils apprenaient discipline en latin, c'était un enseignement dérivé des connaissances d'Hippocrate et de Galien, parfois d'Averroès ou de et d'autres auteurs du Moyen Âge ou de l'Antiquité. Mais ils avaient à leur disposition très peu de médicaments. Quand ils les utilisaient, c'était parfois utile, mais pas toujours. Et quand tout allait mal, on faisait la saignée ou le lavement.
Et on les achevait parfois.
Alors, après, il y avait les chirurgiens. Les chirurgiens, eux, ils avaient quand même... ils faisaient des incisions d'abcès, ils arrachaient les dents, ils redressaient les membres, et parfois, ils opéraient les cataractes. Donc, ils avaient une action positive ce qui avait certainement...
Alors, attendez, je vous interromps parce que j'étais médusée. Vous parlez d'opération de la cataracte. D'ailleurs, il y en a une qui est effectuée par notre jeune médecin. Ça se faisait déjà à cette époque-là.
Alors, il faisait c'était une technique qui consistait à
enlever carrément.
À pousser la cataracte dans le vitré. Enfin,
ah oui, d'accord.
Enfin, bon, c'était. Oui. Mais bon, après.
C'était mieux que rien.
C'était mieux que rien. Mais parfois, ça se passait mal quand même.
Oui, oui, oui.
Et donc, les médecins avaient une forme d'animosité contre les chirurgiens, et ils avaient fait un procès qui a tourné à l'avantage des médecins, interdisant aux chirurgiens de porter le titre de docteur. Voilà. Mais à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe, notre roi a eu des soucis de santé. Il avait d'abord confié sa santé à des médecins qui n'ont rien fait d'extrêmement utile. Et ensuite, il a confié à des chirurgiens qui...
Le roi, c'était Louis XIV.
C'était Louis XIV.
Oui, c'est ça,
Et il s'est rendu compte que les soins des chirurgiens étaient beaucoup plus efficaces et donc il a réhabilité cette profession.
Voilà.
Alors les chirurgiens...
Grâce à la fistule de Louis XIV.
Oui. Et ils apprenaient par compagnonnage, alors que les autres apprenaient avaient eu un gros enseignement théorique et très peu de pratique.
Oui, oui, oui. Oui, justement, parfois, on trouve aussi dans des remarques d'ordre médical qu'il ne faut pas louper, je dis ça aux auditeurs. Par exemple, un médecin anglais qui, en 1628 déjà, avait écrit un traité sur le fonctionnement du cœur et de la circulation sanguine.
Oui, William Harvey, oui, c'était c'est le premier qui a décrit la circulation sanguine. Et il a été très décrié. Je pense me souvenir que les enseignants de Montpellier dont je me souviens pas le nom, avait été très en opposition sur la façon dont il présentait.
Qui était la vieille université.
C'est la première université. Oui. Après, il y avait Paris, il y avait Caen, je crois.
Oui, mais Montpellier était la plus ancienne.
Oui. Je crois que Ronsard avait fait ses études à...
Il était médecin.
Non, Rabelais ou Ronsard.
Rabelais, peut-être. Alors, vous parlez également d'Ambroise Paré, non? À un moment donné, il me semble.
Alors, Ambroise Paré était un chirurgien barbier qui, un siècle avant, avait décrit la technique de ligature des vaisseaux pour arrêter les hémorragies, notamment lors des amputations. Ouais. Et cette technique se substituait à la cautérisation au fer chaud.
Quand même un peu brutal.
Oui, c'était un peu brutal et douloureux certainement. Et les statistiques de l'époque faisaient accréditer l'idée que cette technique réduisait de 50% les décès après les amputations les champs de bataille.
Oui, alors grâce à vous, là, on voit qu'il y a une progression par des petites choses, pas si petites que ça, mais finalement, ça ne paraît rien, ça nous paraît maintenant normal. Et non, c'était pas normal, on ne savait pas.
Alors à l'époque, il y avait pas de moyens de communication que nous connaissons. Il n'y avait pas évidemment ce qu'on appelle les conférences de consensus. Et les techniques étaient plus ou moins bien diffusées, même si elles étaient bonnes, elles n'étaient pas toujours bien diffusées.
Et l'information en général n'était pas très bien diffusée.
C'est ça. Si bien que Louis XIV, pour une intervention sur le palais, je crois, avait bénéficié d'une cautérisation au fer chaud, donc un siècle après, ça, c'est dire que...
Donc ça n'était pas arrivé jusqu'à son chirurgien.
C'était...
Là aussi, je suis étonnée de voir que pour que quelqu'un... Il a fait confectionner sur le bateau, au charpentier du bord, un instrument dont il avait fait le dessin. Un appareil pourvu d'une vis sans fin, dont le bout était relié par des sangles de cuir à l'extrémité du membre fracturé. Déjà, alors on avait l'idée quand même de faire tenir, d'immobiliser.
Oui, tout à fait. J'ai découvert ça. Alors, il trônait dans notre bibliothèque familiale un dictionnaire encyclopédique de la médecine, de la chirurgie, de l'art dentaire et de l'art vétérinaire, en 8 volumes.
Relativement récent, mais jamais
personne dans la famille n'avait eu l'idée de sortir ces jolis...
Ça doit être passionnant.
Et c'est passionnant parce que j'ai découvert des planches avec la description de cet outil. Alors bon, c'était fait sur terre, mais on pouvait imaginer que que ça puisse être fait par le... sur le bateau.
Oui, et alors on imagine très bien, et vous nous le faites découvrir, que finalement un médecin à bord a toujours du travail. Bon, il faut reconnaître que ces pauvres marins dans les vergues, quand par gros temps sur des planchers glissants, devaient avoir des tas d'accidents. Bon, il y avait le scorbut dont vous avez parlé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il devait être très très occupé, y compris par l'alimentation, il s'occupait de ça. Alors la vie à bord, Comment la voyez-vous?
Alors la vie à bord, c'était d'abord il y avait beaucoup de monde à bord. Il y avait des membres d'équipage et puis il y avait des passagers qui allaient de Nouvelle-Espagne ou à Nouvelle-Grenade. Il y avait les mêmes maladies que sur Terre, et donc il fallait bien soigner les gens. En plus, il y avait le scorbut qui apparaissait en fin de voyage. Et puis il y avait, c'est quand même des conditions difficiles, et donc comme vous le dites, les marins avaient assez souvent des blessures. Alors, à la vie à bord, l'hygiène n'était pas ce que nous connaissons actuellement. Les gens ne se lavaient pas. J'ai lu dans des traités de l'époque qu'il y avait de mauvaises odeurs, mais que finalement les gens s'y habituaient. Voilà, et puis au début il y avait le mal de mer, donc
Oui. Après, sinon, il y a des lectures, le tarot, la pêche, mais c'est long. Les voyages étaient très longs. Alors il nous reste pas beaucoup de temps, et comme je souhaite que vous parliez aussi de votre association, mais on peut parler des dangers. La perdition en mer, parce qu'à un moment donné, le second, qui est assez jaloux de notre jeune médecin, et tout ça à cause de cette jeune fille, Isabelle, va évoquer tous les dangers qu'il brave. La perdition en mer, souvent liée à l'alcool, j'ai l'impression qu'en effet, d'accord, il ne suce pas des cordes depuis. Le mauvais entretien du bateau, ce qui n'était pas le cas, il fallait le dire, devant l'armateur surtout. La surcharge du fret, ce qui arrivait probablement se baladait peut-être aussi.
Oui, alors on essayait de l'arrimer, mais quand il y avait du gros temps, les choses pouvaient...
Bon, le mauvais temps, les incendies. Ah oui, alors là, les incendies, effectivement, il y a des feux allumés la nuit. Oui. Il suffit d'un coup de...
si le bateau... Alors, il était interdit d'allumer des feux la nuit, de se promener avec des lampes, sauf les gens autorisés. Il y avait quelqu'un qui surveillait à l'avant et à l'arrière
du bateau. Et encore moins de faire bouillir de l'eau, comme le préconisait Emmerich. Et la piraterie, alors là, vous en parlez, et ça c'est très intéressant, puisqu'à un moment donné, vous nous amenez sur l'île de la Tortue, le refuge des pirates, et où on voit quand même que, là, c'était toute une institution, parce que... où on retrouve même un chirurgien flibustier.
Alors, cet homme a existé. On lui doit les plus belles pages de description de la Phlibus. Il était fils d'un apothicaire normand. Et comme ses parents étaient protestants, il n'a pas eu le droit de faire ses études de médecine. En France, il est allé en Hollande.
D'accord.
Et ensuite, il s'est embarqué, c'est dit dans le roman, sur un bateau de la Compagnie des Indes occidentales. Et il a atterri à l'île de la Tortue où il a été vendu comme esclave. Et puis il a pu quand même terminer sa formation médicale auprès d'un chirurgien. Et il est devenu pirate. Et donc il a pu raconter toutes ces histoires.
Sous le couvert des rois. Et vous dites quand même qu'il y a eu un changement de politique grâce à Madame de Maintenon.
Oui.
Bon, il faut bien le dire. J'ai l'impression que là, la Phlibus n'a plus été autorisée de la même manière.
Oui, tout à fait. J'explique un peu les raisons de la piraterie et de la défense de la piraterie par les rois. Le pape.
Mais ça, on va pas en parler. On va le découvrir parce qu'il y a plein d'événements qui se passent et on n'en a pas dit le cas. En tout cas, c'est un livre qui est passionnant à lire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements et on apprend beaucoup de choses. Et pour terminer, Henri Reche, j'aimerais que vous nous parliez de cette association que vous avez créée.
Alors oui, j'anime avec quelques amis et ma fille une association humanitaire en Afrique qui a pour objet d'améliorer l'éducation et la santé dans un village africain. Alors l'histoire est partie d'un stage qu'avait fait ma fille dans ce village comme enseignante.
Dans quel pays ?
Au Kenya. Dans le cours de ses études de Sciences Po, elle avait fait sa troisième année comme enseignante dans un lycée qui venait d'être monté. À la fin de l'année de son année d'enseignement, elle avait offert quelques objets, un ordinateur, un microscope, etc. Et avec l'aide de ses amis et de sa famille. Et puis elle est retournée 2 ans après pour travailler à l'ambassade de France à Nairobi. Elle a repris contact avec sa famille d'accueil et ce lycée. Ils l'ont sollicité pour les aider encore et on a dit on va monter une association.
D'accord.
Et depuis 2009, nous avons monté cette association. Nous avons financé une école qui s'appelle Saint Bridget. Qui a une école primaire.
Qui se trouve dans un village, là.
Oui, 80. Alors, c'est un village de 3600 habitants. Dans l'école, il y a 91 enfants qui, pour certains, sont de familles défavorisées, qui ne seraient pas scolarisés si on les aidait pas. Et nous avons amené récemment l'électricité avec les fonds de l'association et l'aide du conseil régional qui s'appelait Midi-Pyrénées et l'aide d'Adourga et avec l'aide d'Adourgaron nous avons amené l'eau qui depuis deux ou trois jours coule au travers de robinets.
D'accord.
Antérieurement, les femmes et les enfants allaient chercher l'eau dans des trous creusés dans le lit de la rivière qui est à sec 10 mois par an.
D'accord.
Avec des contaminations de cette eau par le bétail qui gravite autour.
D'accord. Voilà. Alors cette association l'association s'appelle Yen Zuva Éducation et Santé. Oui. Yen Zuva, Y-E-N-Z-U-V-A, je dis ça pour nos auditeurs. Et on peut, sur Internet,
consulter le site web. Oui. Qui est facile, dans l'URL est facile à retenir, c'est association-yes, Y-E-S, oui. Comme Yen Zuva Éducation et Santé.
Voilà.
.fr.
Voilà,
point
si
fr.
Vous voulez aider un village en Afrique, des enfants particulièrement, voilà, association-yes. Henri Reich,
.fr,
oui. association-yes.fr, voilà. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de votre roman, un récit, Voyage au bout de la mer Océane, paru aux éditions de l'Harmattan, dans la collection Romans historiques, série 17e siècle, et je vous remercie d'être venu jusqu'à nous.
Merci à vous, madame.
Voilà, à bientôt.
Merci beaucoup.